Le problème numéro un, on le sait tous, c'est que toutes nos économies sont basées sur le carbone. Et en fait, il faut totalement l'oublier, donc il faut trouver des alternatives, parce que les solutions, elles se trouvent dans les actions de chacun au quotidien.
Bonjour, je suis Thibault Lamarque, le fondateur et président de Castalie, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Lydie Lescarmontier. À 36 ans, cette glaciologue a déjà parcouru les pôles nord et sud pour étudier les glaciers et l'impact du réchauffement climatique dans ces régions polaires. Elle est notamment montée plusieurs fois à bord de l'Astrolabe, le brise-glace français. Également éducatrice, écrivaine, conférencière, Lydie a de multiples casquettes pour faire connaître la vie des glaciers de notre planète. Aujourd'hui, au micro de La Relève, elle nous raconte son parcours, ses expéditions et sa volonté de transmission. Salut Lydie.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Où est-ce que tu as grandi?
Alors moi, je viens de Bourges, en fait, de la campagne berrichonne. Je viens d'une famille qui a des origines très diverses. Donc on ne peut pas vraiment dire... Moi, j'ai grandi là-bas, mais je ne suis pas vraiment de là-bas. Rien de particulier. Vraiment, je viens d'une famille plutôt modeste, qui a un parcours assez classique, finalement.
Tes parents n'étaient pas glaciologues?
Pas du tout. Ma maman était assistante maternelle. Elle est à la retraite depuis un an. Et mon père était mécanicien. Il a été dans l'armée avant. Donc voilà, rien à voir.
Comment est-ce qu'on devient glaciologue?
J'ai pas vraiment de recette, j'avoue. Si je suis arrivée jusque-là, c'est d'abord parce que j'ai toujours fait des choix de cœur, finalement, dans mon parcours. J'ai pas tellement hésité à me lancer peut-être dans des choses un peu compliquées ou pour lesquelles je pensais pas forcément que j'avais ma place, mais parce que j'avais envie de le faire, j'avais envie de tenter.
Donc tu as fait tes études à Bourges?
J'ai fait mes études à Bourges, je suis partie de Bourges dans l'idée de faire, j'ai fait les classes prépa après, mais quelque chose d'assez général qui pouvait m'ouvrir pas mal de portes différentes. J'étais déjà très passionnée par l'environnement de toute petite, donc ça c'était quand même quelque chose qui m'a bien guidée tout au long de mon parcours. Et puis voilà, je suis arrivée en école d'ingénieur, en environnement, et c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir peut-être faire des choix un petit peu plus passionnés en tout cas, parce que là tu vas t'ennuyer. Donc c'est à partir de ce moment-là.
L'école d'ingénieur, c'était chiant?
Alors, c'est pas chiant, hein, bien sûr que non, mais par contre, c'était pas ce que j'avais envie de faire. J'ai fait 2 ans et je me suis aperçue que je m'ennuyais tout simplement. Que voilà, que moi j'avais pas envie de me lancer dans un job pour lequel j'avais pas envie de me lever le matin. Donc j'ai du coup fait une césure. Pendant un an, j'ai arrêté mes études et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai ouvert le site de l'Université de Toulouse parce que j'étais là-bas et puis j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait en environnement. Et je suis tombée sur un master qui s'intitulait Océan, atmosphère et surface continentale. Ça m'a l'air un peu mystérieux. Et je suis partie ensuite en master. J'ai quasiment fini mon master. Je suis retournée à mon école d'ingé en leur disant je suis désolée, mais là je peux pas revenir. Et ils se sont arrangés pour me valider mon diplôme. Et donc ensuite, je suis partie en thèse.
Tu t'es spécialisée sur quoi? Enfin, je sais, je lis là, mais tu peux nous en parler?
Alors, je me suis spécialisée sur un glacier tout particulier qui s'appelle le glacier Mertz, qui est en Antarctique de l'Est.
Antarctique, c'est pôle sud.
Pôle sud, oui, tout à fait, hémisphère sud. Donc, c'est toute la région qu'il y a autour du pôle sud, parce que souvent, c'est vrai qu'on associe le pôle sud, c'est plutôt un point finalement. C'est un glacier qui n'est pas très loin en fait, de la station Dumont-Durville, en Terre Adélie. Donc là, souvent, on associe un petit peu plus facilement. Et c'est un glacier que j'étudiais déjà pendant mon stage de master, puisqu'en fait, mon directeur de stage, qui est devenu ensuite mon directeur de thèse, avait remarqué que depuis les années 2000, il y avait une fracture qui se développait sur ce glacier. Et elle avait envisagé en
une
fait
une fracture. On la voit par satellite. Comment
par satellite, oui, ouais. Qui est monumental, puisque en fait ce glacier il fait 150 km de long. Enfin, il faisait 150 km de long par 35 de large. Donc c'était vraiment quelque chose de très notable. Et donc il avait proposé un projet de recherche pour suivre en fait tous les processus qui menaient à la fracturation de ce glacier.
C'est quoi un glacier ?
Ah, un glacier. Ouais, très bonne question. Alors, un glacier, on les appelle aussi des fleuves de glace. Et je pense que c'est une bonne image. C'est vraiment, il faut imaginer un petit peu un système presque fermé. Il y a deux grandes zones dans les glaciers. Il y a une zone où on accumule de la glace qui se transforme en fait. Enfin, c'est de la neige qui va se transformer en glace. Et il y a une partie où il y a une partie où elle est transportée et enfin une autre où elle est évacuée. C'est une zone d'ablation. Et donc en fait, ce glacier, c'est vraiment comme un fleuve. Donc il va former de la glace, ensuite il va la transporter et enfin il va se casser, il va véler et il va donner des icebergs qui vont être évacués dans le cas de l'Antarctique, dans l'océan Austral.
Donc véler. Oui. C'est un terme qu'on connaît plutôt pour le bétail.
Oui, voilà, les glaciologues ont réutilisé ce terme.
Donc c'est un petit, c'est finalement le moment où le glacier se casse.
Exactement.
Et donne naissance à des icebergs.
C'est ça, ouais, okay. Il donne naissance à des icebergs. Ouais.
Mais le glacier, il est sur l'eau ou il est sur la terre ?
Alors ça dépend. En Antarctique, la quasi-totalité des glaciers, c'est ce qu'on appelle les glaciers émissaires. Qu'en fait, ils vont ramener de la glace de la calotte vers les océans. Et donc, le glacier Mertz, comme beaucoup de plateformes de glace en Antarctique, flotte sur l'eau. Donc, il a vraiment une partie qu'on appelle une langue de glace qui va sortir en fait de la ligne de côte et qui va commencer à flotter sur l'eau, qui va se casser, qui va être complètement soumis en fait à tous les forçages océaniques. Donc, s'il y a de la houle, s'il y a de la marée, par exemple, c'était le premier signal qu'on a enregistré sur nos instruments qu'on avait placés sur le glacier. C'était les variations de hauteur de l'eau qui étaient liées à la marée, etc.
Tu parlais au passé tout à l'heure, 150 km de long par 35 km de large. Il fait combien aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai pas regardé les dernières images, mais en tout cas en février 2010, donc juste avant, deux ans avant que je finisse ma thèse, il a donné un iceberg en fait de 80 km de long par 35 de large, que je me trompe pas, ça commence à faire un petit peu. Donc en fait, il a perdu quasiment la moitié de sa longueur, donc cette fameuse langue de glace, à travers ce vélage finalement.
Mais ça finalement, le vélage, c'est la vie normale d'un glacier et d'un iceberg, ça n'a rien à voir avec le réchauffement
exactement.
Climatique.
Exactement, ouais, voilà. C'est vraiment... Et puis dans le cas du glacier Mertz, c'était encore plus le cas. Ça fait partie de son cycle. On sait que le glacier Mertz, il va véler un iceberg de ces dimensions-là à peu près tous les 70 ans. Et c'est le cas pour tous les glaciers, parce que comme il y a un endroit en fait, où ils prennent de la masse, où ils prennent de la glace, il faut forcément qu'à un endroit donné, ils l'évacuent d'une certaine manière, et donc c'est à travers le vélage. Après, ce qui est un indice intéressant pour les glaciologues, pour savoir si ces glaciers sont en bonne santé ou pas, ou s'il y a un impact du changement climatique, c'est la fréquence en fait, de ces vélages. Si par exemple un glacier se met à véler de façon beaucoup plus rapide, là on peut se dire, bon là il y a un comportement qui n'est pas tout à fait normal, donc il est en train de perdre une partie de lui-même finalement.
Tu as passé combien de temps sur le glacier ?
Alors, sur le glacier, très peu de temps, ouais. Quelques heures.
Quelques heures, ok.
Ouais, quelques heures, ouais. Non, c'était toujours très, très compliqué. Ben, nous, on avait 4 jours de disponibles sur le terrain parce qu'il fallait qu'on travaille avec l'Astrolabe qui nous emmenait sur place, puis ensuite 2 hélicoptères qui, normalement, sont utilisés pour le ravitaillement de la station du Mont-d'Urville, donc qui nous étaient prêtés finalement pendant quelques jours pour aller sur le terrain. Et dans ces 4 jours-là, il fallait qu'il n'y ait pas de problème au niveau du bateau, qu'il n'y ait pas de problème au niveau des hélicoptères et qu'en plus la météo soit bonne. Ce qui fait qu'en général, on a à peu près 2 jours maximum.
Qu'est-ce qu'il y a comme vie sur place ? Est-ce qu'il y a de la vie ?
Oui, ouais, c'est vrai que c'est très frappant. Y a énormément d'animaux. En plus, nous, on va en Antarctique en été. Donc c'est la période de reproduction, à la fois des manchots, des oiseaux, des phoques, etc. Donc dès qu'on est près de la côte ou qu'on est dans la banquise, on a toujours énormément d'animaux. Après, quand on est sur la calotte antarctique et qu'on remonte finalement un petit peu plus haut et puis aussi plus proche du pôle sud. Là, par contre, il n'y a plus du tout d'animaux parce qu'en fait, tous les animaux des pôles, et notamment d'Antarctique, sont dépendants vraiment du milieu marin.
Donc, ils sont finalement sur le bord de...
Exactement, sur la côte ou la banquise.
Ok, ouais, c'est ça. C'était quoi ta première expérience de glacier, la première fois que tu as mis ton pied sur un glacier ?
Alors, c'était juste avant de... Ah non, non, c'était en 2007, pendant un stage que j'avais fait. J'étais partie en Nouvelle-Zélande. Et là-bas, j'avais pu grimper sur un des glaciers qui sont les plus accessibles. Donc, il y a le Franz Josef et le Fox Glacier. Donc, j'avais pu voir le glacier Fox, il me semble. C'était le premier contact. Après, avec le glacier Mertz, c'était en 2009, la toute première fois.
Ça a un petit côté hors du temps, hors du monde, non, de marcher sur un glacier. C'est quoi les sensations quand on pose son pied sur...
Complètement, ouais. C'est très très fort et c'est encore très net pour moi aujourd'hui. Déjà parce qu'on a eu beaucoup de chance, parce que quand on nous a déposé sur le glacier, d'habitude en fait les hélicoptères restent toujours. Donc s'il y a une panne, à un moment donné s'il y a un problème ou quoi que ce soit, il y a l'hélicoptère qui est là et qui tourne en fait. Parce que souvent les pannes en fait arrivent au moment où l'hélicoptère va démarrer. Et donc on a en permanence ce bruit. Alors que les hélicos ont finalement été appelés ailleurs. Donc on a été laissés sur ce glacier pendant plusieurs heures par nous-mêmes, sans aucun bruit, sans voilà. Et c'était...
Alors c'est quoi les bruits ? Qu'est-ce qu'on entend ?
Le vent. Bah, le vent, bien sûr. Sinon, on n'entend rien. Et c'est ça qui est assez incroyable.
Il n'y a pas de craquement de glace ?
Non, pas du tout. Mais en tout cas, tous les moments où j'étais là-bas, il y en a sûrement. Mais non, ouais, c'est le grand silence. On ne voit plus de limites. C'est vraiment comme être dans le désert, finalement. Non, c'est très, très particulier.
Donc, c'est du blanc à perte de vue ?
Du blanc à perte de vue. Et puis, des sastrugis aussi.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est comme des mini-dunes qui sont formées par le vent. Et c'est extrêmement joli, mais ça rappelle vraiment cette idée du désert, en fait, qu'on peut avoir. Donc, c'est un désert
de glace. Ouais. De glace.
Oui.
Tu parlais des hélicoptères et donc le fait qu'il y ait des pannes d'hélicoptères. Enfin, on va dire que la vie humaine est dépendante de l'hélico ?
Dépendante de l'hélico, non, pas vraiment. On est plus dépendant du bateau parce que c'est grâce à lui qu'on a de l'eau, de la nourriture, du chauffage, etc., qu'on a un abri.
Donc l'hélico va vous prendre du bateau ?
Voilà, il nous prend du bateau et puis il nous emmène sur le glacier et ensuite nous ramène au bateau. C'est vrai qu'une fois qu'on est sur le terrain, on est dépendant de l'hélicoptère parce que ce glacier, il est gigantesque, c'est des falaises de glace de 40 mètres de haut, donc on ne serait pas descendu en rappel, ça aurait été compliqué. Mais c'est aussi pour ça en fait qu'on a deux hélicoptères avec nous sur place, c'est que si jamais il y a un problème sur l'un, on a toujours un backup avec le deuxième.
Et l'hélicoptère et le froid, ça fonctionne bien ?
Oui, en général, ça se passe pas trop mal. Le problème, dès qu'on est isolé, c'est que s'il y a une panne, ben, si on n'a pas la pièce, on est mal, en fait. On est foutu, on attend. Et nous, ça nous est arrivé une année, on a eu un hélicoptère qui est tombé en panne et il manquait un tout petit relais, en fait. Et il a fallu qu'il y ait un avion qui nous survole pour nous lancer un bidon avec la pièce à l'intérieur.
Vous êtes resté bloqué combien de temps ?
Alors, avant que l'avion arrive, on est resté coincé peut-être 2-3 jours. Mais en tout, cette année-là, on est resté coincé à bord 2 mois, finalement. À cause des conditions de banquise qui ont fait qu'on était complètement emprisonnés, on n'a pas pu rejoindre la station.
Et donc là, vous étiez sur l'Astrolabe ?
On était sur l'Astrolabe, oui.
Qu'est-ce qu'on fait sur un bateau pendant 2 mois quand vous êtes combien à bord ? Il y a combien de nationalités ? Enfin, c'est quoi l'ambiance ?
Alors, c'est essentiellement des Français.
Ouais.
Des fois, il y a des Italiens, mais là, on était que des Français. Il faut imaginer que c'est plein de gens qui ne se connaissent pas forcément, qui se retrouvent à vivre au quotidien, en fait, ensemble. Tout le monde est très heureux d'être là, en fait. C'est vraiment un choix pour chacun. Donc ça, franchement, ça porte la bonne humeur, une ambiance vraiment très positive. Et tout le monde se rend compte que voilà, qu'on a de la chance d'être là. Après, sur un bateau pendant 2 mois, bah moi, à ce moment-là, c'était plutôt une aide parce que j'étais en train de finir mon manuscrit de thèse. Donc, j'avais besoin de temps. Donc, je travaillais énormément. J'avais aussi plein de gens disponibles sous la main.
Des scientifiques ?
Oui, des scientifiques et aussi des, voilà, des personnes, des techniciens. Des...
Il y a combien de personnes sur le bateau ?
On est une quarantaine. C'est 45 personnes et une dizaine de membres d'équipage.
2 mois donc bloqués sur la banque, enfin dans la banquise.
Oui, dans la banquise, ouais, complètement.
Et c'est qu'est-ce qui libère la banquise ? C'est le réchauffement, enfin c'est le printemps ou...
Oui, c'est ça. C'est l'arrivée de l'été et puis aussi le vent. En fait, on attendait à chaque fois, on était un petit peu calé sur les bulletins météo. On attendait la tempête qui allait complètement réorganiser finalement la glace parce qu'en fait le vent qui souffle sur la banquise peut réorganiser complètement les plaques de banquise et nous permettre d'ouvrir une rivière devant nous et ensuite de sortir. Donc c'est un petit peu les deux.
Ok. Mmh. Peut-être que tu peux nous parler de tes 2 ans en Australie. Tu étais basée où ?
Alors, quand j'étais en thèse, j'ai passé 1 an et demi à Toulouse et puis 1 an et demi en Tasmanie, à Hobart. Super souvenir aussi parce que là, c'est vraiment... le lieu où tous les explorateurs sont partis en Antarctique. Donc, c'est vraiment un lieu chargé d'histoire polaire. Et après ma thèse, je suis partie vivre en Australie pendant 3 ans à Canberra, toujours pour étudier l'impact du changement climatique sur la calotte antarctique, mais à beaucoup plus grande échelle. Donc, je faisais toujours du terrain, mais je travaillais avec des données assez différentes. C'était plutôt des données de gravité. Donc, je regardais en fait les variations de masse de glace sur le continent.
En 2015, tu as intégré l'APEX. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une association de jeunes chercheurs polaires. C'est une association internationale. Et en fait, j'ai 2 très bonnes amies à moi qui ont travaillé dans les régions polaires, qui ont monté la branche française que j'ai rejoint dans cette association quelques années après. Et en fait, le but de cette association, c'est d'éduquer les jeunes enfants à la science dans les régions polaires. Donc, c'est proposer des ateliers. On organise une semaine de conférences qui s'appelle la semaine polaire où on propose à plein de jeunes chercheurs d'expliquer à des enfants de primaire, collège, même parfois lycée, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils vont dans les régions polaires, quelle est l'importance de ces régions-là, comment ça se passe aujourd'hui, en fait.
C'est quoi l'objectif derrière le fait de rendre la science accessible, qu'est-ce qui t'anime finalement ?
Déjà parce que, alors moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée et qui a aussi été assez important dans les directions que j'ai pu prendre au cours de mon parcours, mais je me suis aperçue à la fin de ma thèse qu'il y avait vraiment un gros fossé entre ce que savait la société civile, en fait, tout un chacun, et puis ce que savaient mes collègues chercheurs, profs, etc. Et je me suis rendu compte que, surtout aujourd'hui, sous l'impact du changement climatique, on a vraiment besoin de rendre ces informations-là accessibles au plus grand nombre, parce que les solutions, elles se trouvent dans les actions de chacun au quotidien. Et si on veut que ça fonctionne, il faut vraiment créer ce pont. Et en fait, il y a plein de chercheurs qui le créent aujourd'hui à travers la médiation, de la communication. Et c'était aussi un petit peu l'idée d'APEX, mais plus à destination des enfants.
Du coup, c'est de l'éducation. Vous avez été présent à la COP26 ?
APEX, non. Je ne pense pas qu'ils y étaient. Après, aujourd'hui, je travaille dans une ONG. Et donc, nous, par contre, on était présents à la COP26.
Comment s'appelle l'ONG ?
Elle s'appelle le Bureau d'éducation au climat. Et donc, notre but, c'est de créer des ressources sur le changement climatique, des formations, et puis aussi de mettre en réseau plein de partenaires qui veulent travailler sur cette thématique et qui veulent la rendre accessible pour des enseignants qui travaillent avec des enfants de 9 à 15 ans. Donc, nous, on travaille vraiment partout dans le monde. On a des gros projets en Amérique latine parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans ces pays-là, il y a une réelle demande, en fait, pour faire évoluer les programmes scolaires, pour rendre accessibles ces informations-là.
Que tu n'as pas en France ou en Europe ?
Si, mais en fait, l'idée de cette ONG, c'est aussi d'apporter cette éducation peut-être aux populations les plus vulnérables, les plus exposées au changement climatique, qui n'ont pas toujours des systèmes éducatifs à la hauteur d'une autre ou de celui qu'on peut avoir en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit en Europe, mais ça veut dire qu'eux, ils en ont encore plus besoin peut-être que nous. Donc notre priorité, c'est eux, mais on fait quand même des choses en France, on fait quand même quelques formations en Europe de manière générale, mais l'idée, c'est vraiment de cibler plutôt ces pays-là.
C'est sous l'égide de l'UNESCO, donc c'est basé à Paris ?
Oui, tout à fait. Ouais. On est dans les locaux de l'Université de la Sorbonne à Jussieu.
Vous êtes combien au sein de...
Alors aujourd'hui, on est presque une dizaine. On sera 10 à partir de janvier. Et on a commencé en 2018, on était 2. Donc ça fonctionne bien, ouais. Et on a toujours trop de boulot.
Donc tu étais présent pendant la COP26 ?
Oui, exactement. Et en fait, pendant la COP26, on a lancé une initiative qui s'appelle la COP des enseignants, la Teacher's COP. Et l'idée en fait de cette initiative, c'était de... Avant la COP, finalement, d'organiser un ensemble d'ateliers, on a demandé à des enseignants de vraiment partout dans le monde de réfléchir à la situation actuelle de l'éducation au changement climatique dans leurs pays respectifs, les obstacles ou au contraire les choses qui fonctionnent bien, et faire des propositions pour améliorer tout ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que tous les enseignants avec qui on a discuté avaient à peu près les mêmes retours, qu'importe le contexte finalement. Et en fait, on a rassemblé toutes ces informations, toutes ces propositions dans un document qu'on a présenté ensuite à la COP, dans l'idée qu'ils puissent ensuite être utilisés par les décideurs politiques pour faire évoluer les programmes scolaires, pour faire évoluer le rôle de l'école aujourd'hui dans le contexte du changement climatique, mais vraiment donner de la place en fait aux enseignants et leur donner une voix finalement.
Et alors, comment ça s'est passé pour toi là, cette COP26, ton ressenti à la fin ?
Il y a toujours du pour et du contre. Moi, j'aime bien être quand même
assez... Toi, tu es vert à moitié plein ou vert à moitié vide ?
Non, je suis plutôt vert à moitié plein. Parce que je pense que si on commence à regarder vert à moitié vide quand on bosse sur le climat, on va avoir des sacrés problèmes de morale. Non, ça bouge, vraiment. On a vu qu'il y a une dizaine de pays qui se sont engagés à changer leur programme scolaire pour prendre en compte le climat. Mais ça bouge pas assez vite. Et c'est un petit peu ça le problème aujourd'hui. C'est que je pense qu'on va arriver là où on doit arriver, mais on y arrivera peut-être 10 ans plus tard que ce qu'on devrait faire.
Quand on dit changer les programmes scolaires, c'est pour apprendre à vivre avec le réchauffement climatique, c'est pour sensibiliser, c'est pour corriger finalement et apprendre à réduire son crédit carbone, sa consommation de carbone.
Alors, il y a une étude de l'UNESCO qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui montre que plus de 60% des programmes scolaires dans le monde ne mentionnent même pas le mot climat. L'idée de peut-être forcer un petit peu, de faire un petit peu de lobbying auprès des décideurs politiques, c'est que déjà, il y a une prise en compte, qu'on explique ce qui se passe, le changement climatique. On en parle aujourd'hui dans les médias de façon plutôt quotidienne. Et puis, travailler sur les solutions et des solutions qui soient à la portée de tout le monde, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait. Et on est persuadé qu'en ciblant les enfants jeunes et en leur proposant en fait, des comportements différents, on peut mettre en place une dynamique. C'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. On voit que ça change, mais il y a encore du chemin à parcourir. Et en fait, on ira beaucoup plus vite si ces informations-là, elles sont accessibles dans la formation continue. En fait.
Comment est-ce qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique et contre la fonte des glaciers ? C'est quoi la tout doux ?
La tout doux, mais en fait, il y a plein de choses à faire. C'est complètement repenser nos façons de vivre. Le problème numéro un, on le sait tous, c'est que toutes nos économies sont basées sur le carbone. C'est notre source d'énergie aujourd'hui et en fait, il faut totalement l'oublier. Donc, il faut trouver des alternatives. En plus, en parallèle de ces alternatives, il faut aussi réduire nos consommations de manière générale, les repenser, être beaucoup plus conscient. Et tout ça, pour moi, ça passe vraiment par l'éducation.
Tu es glaciologue, mais également écrivaine, je ne sais pas.
Ouais, je ne sais pas trop non plus.
Je ne sais pas ce que je dis. Tu peux nous parler des livres que tu as écrits ?
Oui, donc j'ai écrit 2 livres. Un premier qui s'appelle L'empreinte des glaces, qui est sorti en 2018, qui est plus un beau livre hommage à l'Astrolabe, puisque en 2016, ce bateau a été remplacé par un bateau plus récent, qui s'appelle toujours l'Astrolabe, mais qui, en fait, l'ensemble de l'équipage qui était à bord, qui était marine marchande, a été remplacé par un équipage de la marine nationale. Donc il y a eu un changement d'affectation, ce qui fait qu'en fait, toutes ces personnes-là sont retrouvées au chômage du jour au lendemain, ont dû, voilà, tous retrouver du boulot ailleurs, mais ils sont sortis en fait de ce contexte polaire alors qu'ils avaient une expérience, un savoir-faire extrêmement précieux. Et donc l'idée, c'était de parler de ça, de parler de ce bateau qui avait travaillé pour l'Institut Polaire pendant plus de 30 ans. C'est plus un beau livre qui raconte qui sont les personnes à bord, la mission du bateau, qu'est-ce qu'on peut observer. Et puis, cette année, j'ai sorti un second livre qui s'appelle « La voix des pôles » aux éditions Flammarion, qui est là beaucoup plus un livre beaucoup plus personnel, où je raconte toutes les missions que j'ai pu faire en Antarctique. Donc, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on y va, raconter un petit peu voilà, ce qu'on est en train de...
C'est un carnet de bord ?
C'est un carnet de bord, oui. Et je raconte très précisément les premières années, peut-être un petit peu moins les dernières années en tant que chercheur en Australie. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir partager avec le plus grand nombre qu'est-ce que le quotidien d'un chercheur en Antarctique. Et puis, cet émerveillement aussi, quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a de plus en plus de vocations pour devenir chercheur ou glaciologue ?
Ah mais oui, moi toutes les semaines je reçois un mail d'un jeune étudiant qui me dit « Ah, j'aimerais devenir glaciologue, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et ça me fait extrêmement plaisir parce que ben, c'était un métier moi, que je ne connaissais même pas en fait, quand je faisais mes études. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de visibilité sur ces métiers qui sont plus liés à la compréhension du système Terre de manière générale. Et ça, c'est, disons, l'aspect positif, je dirais, du changement climatique. C'est que comme tout ça est affaibli, on en parle beaucoup plus et ça rend aussi ces métiers-là plus visibles. Aujourd'hui, je vois une génération qui arrive qui a envie d'avoir un impact, en fait. Ça fait partie des choses qui font qu'on se sent mieux. Et c'est une bonne nouvelle.
En parlant donc de métier, tu es glaciologue, écrivaine, éducatrice, guide, conférencière. C'est quoi la vie perso ? Comment est-ce qu'on fait pour garder une vie perso au milieu de tout ça ?
C'est pas facile, mais à côté de ça, c'est extrêmement important pour moi. Ça explique aussi le fait que je sois partie de Paris il y a 2 ans pour m'installer à la campagne. L'idée, c'est vraiment de retrouver cette connexion à la nature dès que je rentre chez moi, en fait. Et ça me permet aussi de ranger un petit peu mon cerveau et ma vie professionnelle et de vraiment m'immerger dans cet environnement qui fait que je me ressource très vite.
Et est-ce que les glaciers te manquent ? Est-ce que tu es accro aux glaciers ?
Ouais, j'avoue. Mais après, c'est une maladie... classique, dont toutes les personnes qui sont parties dans les régions polaires sont atteintes, parce que ça nous offre vraiment une vision en fait de la nature qui est totalement différente, parce que voilà, on arrive dans un endroit où on doit se plier à l'environnement où on est, c'est lui qui décide. En Antarctique, c'est encore plus le cas, c'est vraiment la météo, c'est les conditions de banquise. On réapprend notre lien avec les animaux, ça c'est quelque chose dont je parle beaucoup et qui m'a aussi permis de changer en fait ma manière de voir l'environnement autour de moi, c'est que les animaux n'ont pas peur de nous. Et en fait, on peut s'approcher, on peut les observer. Des fois, on a les manchots qui nous suivent. Pour moi, ça a vraiment fait basculer en fait ma façon de voir les animaux aujourd'hui dans notre quotidien, dans nos sociétés, où on vit en parallèle, en fait. Alors que dans ces régions-là, on a vraiment des
qu'est-ce
possibilités d'interaction.
Un manchot n'a pas peur, c'est qu'il n'a jamais vu d'humain.
C'est ça, c'est qu'il n'a pas de raison en fait, de nous considérer en tant que prédateurs. Et si les animaux ici ont peur de nous, c'est parce que voilà, ils ont appris à se méfier de nous parce qu'on est un danger en fait.
Si tu devais emmener 4 personnes dans le pôle Nord, donc dans l'Arctique, qui choisirais-tu et pourquoi ?
Ah, pas facile. Je pense qu'il y aurait 2 catégories de personnes. Donc clairement ma famille, parce que c'est vrai que voilà, je les saoule depuis des années avec les régions polaires. C'est vraiment des informations assez quotidiennes pour eux. Mais en même temps, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de partager tout ça. Je me rends compte aussi que, comme plein de copains, en tout cas d'amis proches, ils ont lu mon dernier bouquin, La Voix des Pôles, cette année. Et en fait, ils ont appris énormément de choses.
Et sur toi ?
Ouais, sur moi, sur peut-être ma façon de voir les choses ou cette expérience-là. Et j'aimerais vraiment, j'aurais vraiment adoré amener mes parents, ma sœur sur un bateau et leur montrer tout ça en direct. Et après, j'aurais aussi bien aimé emmener quelques décideurs politiques, peut-être notre président ou Biden, je ne sais pas trop, pour leur montrer aussi.
Peut-être les deux.
Allez, c'est bon, il y a encore de la place. Allez, je les amène. Parce que je pense aussi que dans le climat, il y a un aspect émotionnel qui est très important. Et je pense que si on aime ces régions-là, on a envie de les protéger aussi. Et je pense que les aimer, ça passe aussi par les découvrir.
Alors, du coup, ça me pousse à une autre question. C'est que penses-tu du tourisme climatique ou du tourisme dans les pôles?
Oui, alors ça, c'est vrai qu'on me pose souvent la question parce que moi, j'ai participé à ça, en fait. J'ai été guide dans les régions polaires. J'ai pas de réponse tranchée, comme sur plein de choses d'ailleurs. Je suis pour, mais pas dans n'importe quelle condition. Et c'est un petit peu ça le problème aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui explose, mais un peu dans toutes les directions, avec des bateaux de plus en plus grands. Et je suis formellement contre. Mais je pense qu'emmener une poignée de personnes je regarde par rapport à mon expérience à moi et je vois à quel point ça m'a marqué et ça a vraiment lancé en fait cet engagement que je peux avoir. Je pense que voilà, quand on aime ces régions-là, on a aussi envie de les protéger et de devenir ambassadeur. Donc voilà, c'est oui, mais pas n'importe comment.
Donc pas de tourisme de masse ?
Non, pas tourisme de masse, ça n'a aucun sens en plus. Quand on part dans les régions polaires, l'idée c'est vraiment de découvrir à la fois des animaux, des endroits totalement sauvages. Et je vois pas comment ça peut fonctionner quand on est des centaines de personnes les uns à côté des autres. Donc oui.
Est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets ?
Alors, un des projet qui me tient pas mal à cœur, ça serait de repartir au Groenland en fait cette année, toujours pour un projet de sensibilisation qui mêlerait à la fois de une partie recherche scientifique et une partie plus de photographie, dans l'idée de présenter un petit peu ce qui se passe là-bas. Mais voilà, c'est en cours, rien n'est fait pour l'instant, donc on va voir si ça aboutit ou pas.
Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose que je t'ai pas posé, un message que tu voudrais passer à ceux qui nous écoutent ?
Comme on est en fin d'année, je pense que l'idée, c'est de peut-être finir avec un petit message positif. Je vois que les choses changent beaucoup en ce moment, et notamment auprès des plus jeunes. Et voilà, ça me rend positive face au futur. Après voilà, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un petit coup d'accélérateur et que tout ce changement soit aussi pris en compte par les décideurs politiques. On sait que les élections arrivent bientôt et j'aimerais vraiment que le climat, que l'écologie soit au cœur des discussions, ce qui n'est pas encore le cas. Mais je ne perds pas espoir.
Donc, message à tous les candidats. Merci Lydie pour ce moment de partage. C'est la première fois que je rencontrais et que je discutais avec une glaciologue. Moi, ça m'a donné envie de partir sur l'Astrolabe et je serais ravi de découvrir la banquise. Je pense que moi, ce que je retiens, c'est que finalement, ces grands espaces, cette à la fois aridité mais dureté, finalement, ça t'a rendu très sensible au changement climatique et ça a provoqué chez toi cette vocation d'éducation pour la nouvelle génération. Merci beaucoup Lydie.
Merci beaucoup.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.